Marivaux, la vie de Marianne, 9e partie. Il y a si longtemps, madame, que vous attendez cette suite de ma vie, que j'entrerai d'abord en matière. Point de préambule, je vous l'épargne. Pas tout à fait, me direz-vous, puisque vous en faites un, même en disant que vous n'en ferez point. Eh bien, je ne dis plus mot. Vous vous souvenez, quoi que ce soit du plus loin qu'il vous souvienne, que c'est la religieuse qui parle. Vous croyez, ma chère Marianne, être née la personne du monde la plus malheureuse, et je voudrais bien vous ôter cette pensée, qui est encore un autre malheur qu'on se fait à soi-même, non pas que vos infortunes n'aient été très grandes, assurément, mais il y en a tant de sortes que vous ne connaissez pas, ma fille. Du moins, une partie de ce qui vous est arrivé s'est-il passé dans votre enfance, quand vous étiez le plus à plaindre. Vous ne le saviez pas. Vous n'avez jamais joui de ce que vous avez perdu. Et l'on peut dire que vous avez plus appris vos pertes que vous ne les avez senties. J'ignore à qui je dois le jour, dites-vous. Je n'ai point de parents et les autres en ont. J'en conviens. Mais comme vous n'avez jamais goûté la douceur qu'il y a en avoir, tâchez de vous dire, les autres ont un avantage qui me manque. Et ne vous dites point, j'ai une affliction de plus qu'eux. Songez d'ailleurs au motif de consolation que vous avez un caractère excellent, un esprit raisonnable et une âme vertueuse que valent bien des parents, Marianne. Et voilà ce que n'ont pas une infinité de personnes de votre sexe dont vous enviez le sort et qui seraient bien mieux fondées à envier le vôtre. Voilà votre partage, avec une figure aimable qui vous gagne tous les cœurs et qui vous a déjà trouvé une mère pour le moins aussi tendre que l'eût été celle que vous avez perdue. Et puis, quand vous auriez vos parents, que savez-vous si vous en seriez plus heureuse? Hélas, ma chère enfant, il n'y a point de condition qui mette à l'abri du malheur ou qui ne puisse lui servir de matière pour être le jouet des événements les plus terribles. Il n'est seulement question que d'être au monde. Je n'ai point été orpheline comme vous, en ai-je été mieux que vous? Vous verrez que non, dans le récit que je vous ferai de ma vie, si vous voulez, et que j'abrégerai le plus qu'il me sera possible. Non pas, lui dis-je, n'abrégez rien, je vous en conjure, je vous demande jusqu'au moindre détail. Plus je passerai de moments à vous écouter, plus vous m'épargnerez de réflexions sur tout ce qui m'afflige, et s'il est vrai que vous n'ayez pas été plus heureuse que moi, vous qui méritez de l'être plus qu'une autre, j'aurai assez de raisons pour ne plus me plaindre. Dès que mon récit peut servir à vous distraire de vos chagrins, me répondit-elle, oh, je n'hésiterai point à lui donner toute son étendue, et je vous promets d'avance qu'il sera long. Avant que j'en vienne à ce qui me regarde, il faut que je vous dise un mot du mariage de mon père et de ma mère, puisque c'est la manière dont il se fit qui vraisemblablement a décidé de mon sort. Je suis la fille d'un gentilhomme d'ancienne race, très distingué dans le pays, mais peu connu dans le monde. Son père, quoique assez riche, était un de ces gentilshommes de province qui vivent à la campagne et n'ont jamais quitté leur château. Monsieur de Tervire, c'était son nom, avait deux fils. C'est à l'aîné qu'à qui je dois le jour. Mademoiselle de Trelles, c'est ainsi que s'appelait ma mère, d'aussi bonne maison que lui et qui était pensionnaire d'un couvent où elle avait été élevée, en sortit à l'âge de 19 à 20 ans pour assister au mariage d'un de ses parents, et ce fut en cette occasion que mon père, jeune homme de 26 à 27 ans, la vit et se donna pour jamais à elle. Il n'en fut pas rebuté. Elle se sentit à son tour beaucoup de penchant pour lui, mais madame de Trelles, qui était veuve, crut devoir s'opposer à cette inclination réciproque. Il y avait peu de biens dans sa maison. Ma mère était la dernière de 5 enfants, c'est-à-dire de 2 garçons et de 3 filles. Les 2 premiers étaient au service, Ses revenus suffisaient à peine pour les y soutenir, et il n'y avait pas d'apparence qu'on permît intervir, qui était un assez riche héritier, d'épouser une cadette sans fortune et qui, pour toute dot, n'avait presque qu'une égalité de conditions à lui apporter en mariage. Monsieur de Terville, le père, ne consentirait point une pareille alliance. Il n'était pas raisonnable de l'espérer, ni de laisser continuer un amour inutile et par conséquent indécent. Voilà ce que Madame de Trelles disait à Tervire, le fils. Mais il combattit avec tant de force les difficultés qu'elle alléguait, lui dit que son père l'aimait tant et qu'il était si sûr de le gagner, et il passait d'ailleurs pour un jeune homme si plein d'honneur qu'à la fin elle se rendit et souffrit que ses amants, qui ne demeuraient qu'à une lieue l'une de l'autre, se vissent. 6 semaines après, Tervire parla à son père, le supplia d'agréer un mariage dont dépendait tout le bonheur de sa vie. Et son père, qui avait d'autres vues, qui aimait tendrement ce fils, et qui, sans lui en rien dire, lui avait trouvé depuis quelques jours un très bon parti, se moqua de sa prière, traita sa passion d'amourette frivole, de fantaisie de jeunesse, et voulut sur le champ l'emmener chez elle, qui lui avait destiné. Son fils, qui croyait que cette démarche aurait été une espèce d'engagement, n'eut garde de s'y prêter. Son père ne parut point offensé de son refus. C'était un de ces hommes froids et tranquilles, mais qui ont l'esprit entier. « Je ne vous forcerai jamais à aucun mariage, mais je vous permettrai point celui dont vous me parlez, lui dit-il. Vous n'avez point assez de bien pour vous charger d'une femme qui n'en a point. Et si, malgré ce que je vous dis là, Mademoiselle de Trelles devient la vôtre, je vous avertis que vous en repentirez. » Ce fut là tout ce qu'il put tirer de son père, qui dans la suite ne lui en dit pas davantage et qui continua de vivre avec lui comme à l'ordinaire. Madame de Trelles, à qui il ne rendit cette réponse que le plus tard qu'il put, défendit à sa fille de revoir Tervire et se préparait à la renvoyer dans son couvent, quand cet amant, désespéré de songer qu'il ne la verrait plus, proposa de l'épouser en secret et de ne déclarer son mariage qu'après la mort de son père ou qu'après l'avoir disposé lui-même à ne s'y opposer plus. Madame de Trelles s'offensa de la proposition et n'y vit qu'une raison de plus d'éloigner sa fille. Dans cette occurrence, ses deux fils revinrent de l'armée. Ils apprirent ce qui se passait. Ils connaissaient Tervire, ils l'estimaient. Ils aimaient leur sœur et ils la voyaient affligée. À leur avis, il n'était question que de se taire quand elle serait mariée. Monsieur de Tervire, le père, pouvait être gagné. Il était d'ailleurs infirme et très âgé. Au pis-aller, le caractère du fils ne laissait rien à craindre pour leur sœur. Et sur tout cela, ils appuyèrent les instances de leur ami d'une manière si pressante. Ils importunèrent tant Madame de Trelles qu'elle leur abandonna le sort de sa fille et son amant l'épousa. 16 ou 17 mois après, M. de Tervire, le père, soupçonna ce mariage sur bien des choses qu'il est inutile de vous dire. Et pour savoir à quoi s'en tenir, il ne sut que s'adresser à son fils, qui n'osa lui avouer la vérité, mais qui ne la nia pas non plus, avec cette assurance qu'on a quand on dit vrai. « Voilà qui est bien, lui répondit le père. Je souhaite qu'il n'en soit rien, mais si vous me trompez, vous savez ce que je vous ai dit là-dessus, et je vous tiendrai parole. » Le bruit court que Tervire est marié avec votre cadette, dit-il à Madame de Trelles, qu'il rencontra le lendemain. Et supposons que cela soit, je n'en serais pas fâché si j'étais plus riche. Mais ce que je ne puis pas laisser ne suffirait plus pour soutenir son nom, et il faudrait prendre d'autres mesures. L'air déconcerté qu'elle avait en l'écoutant acheva sans doute de lui confirmer ce mariage, et il la quitta sans attendre de réponse. Dans le temps qu'il tenait ses discours, et qu'avec la froideur dont je vous parle, il menaçait mon père d'un ressentiment qui n'eut que trop de suite, ma mère n'attendait que l'instant de me mettre au monde. Et vous voyez à présent, Marianne, pourquoi j'ai fait remonter mon histoire jusqu'à la leur. C'était pour vous montrer que mes malheurs se préparaient avant que je visse le jour, et qu'ils ont, pour ainsi dire, devancé ma naissance. Il n'y avait que 4 mois que ceci s'était passé, et je n'en avais encore que 3 et demi, quand M. de Tervire, le père, dont la santé depuis quelque temps était considérablement altérée, et qui sortait rarement de chez lui, voulut, pour dissiper une langueur qu'il sentait, aller dîner chez un gentilhomme de ses amis qu'il avait invité, et qui ne demeurait qu'à 2 lieues de son château. Il était à cheval, suivi de 2 valets. À peine avait-il fait 1 lieue, qu'un étourdissement qui lui prit et auquel il était sujet, l'obligea de mettre pied à terre et de s'arrêter un instant près de la maison d'un paysan dont la femme était ma nourrice. Monsieur de Tervire, qui connaissait cet homme et qui entra chez lui pour s'asseoir, vit qu'il tâchait de faire avaler un peu de lait à un enfant qui paraissait fort faible et qui avait l'air pâle et comme mourant. Cet enfant, c'était moi. « Ce que vous lui donnez là ne lui vaut rien, » dit Monsieur de Tervire, surpris de son action. « Dans l'état de faiblesse où il est, c'est de sa nourrice dont il a besoin. Est-ce qu'elle n'y est pas ?»« Ah, vous m'excuserez, » lui dit le paysan. « La voilà, c'est ma femme, mais elle est, comme vous voyez, au lit, avec une grosse fièvre qui l'a empêchée de nourrir l'enfant depuis hier au soir, que nous lui avons cherché une nourrice, et voici même mon fils, qui a été de grand matin avertir le père et la mère d'en amener une. Cependant, personne ne vient, la petite fille est fort mal, et je tâche en attendant de la soutenir le mieux que je puis, mais il n'y aura pas moyen de la sauver si on la laisse languir plus longtemps. Oh, vous avez raison, le danger est pressant, dit M. de Tervire. Est-ce qu'il n'y aurait point de femme aux environs qu'on puisse faire venir? Vous me faites une vraie pitié. Oh, et vous en ferez encore bien davantage si vous saviez qui elle est, monsieur, lui dit de son lit ma nourrice. Et à qui appartient-elle donc? Lui répondit-il avec quelque surprise. « Hélas, monsieur, reprit le paysan, je n'ai pas osé vous la prendre d'abord, de peur de vous fâcher, car je sais bien que ce n'est pas de votre gré que votre fils s'est marié, mais puisque ma femme s'est tant avancée, il vaut autant vous dire que c'est la fille de monsieur de Tervire. » Le père, à ce discours, fut un instant sans répondre, et puis en me regardant d'un air pensif et attendri. « La pauvre enfant, dit-il, bon, ce n'est pas elle qui a tort avec moi. » Et aussitôt il appela un de ses gens. « Hâtez-vous, lui dit-il, de retourner au château. Je me souviens que la femme de mon jardinier perdit avant-hier son fils qu'il avait que 5 mois, et qu'elle le nourrissait. Dites-lui de sa part qu'elle vienne sur le champ prendre cet enfant-ci, et que c'est moi qui la paierai. Allez, courez vite, et recommandez-lui qu'elle se hâte. » L'étourdissement qu'il avait pris s'était alors entièrement passé. Il me fit, dit-on, quelques caresses, remonta à cheval, et poursuivit son chemin. Il n'était pas encore à 100 pas de la maison que son fils arriva avec une nourrice qu'il avait pu trouver plus tôt. Le paysan lui conta ce qui venait de se passer, et le fils, pénétré de la bonté d'un père si tendre quoique offensé, remonta à son tour à cheval et courut à toute bride pour aller lui en marquer sa reconnaissance. Monsieur de Tervire, qui le vit venir et qui se doutait bien de quoi il était question, s'arrêta, et son fils, après avoir mis pied à terre à quelques pas de lui, va se jeter à ses genoux, les larmes aux yeux, et sans pouvoir prononcer un mot. Je sais ce qui vous amène, lui dit Monsieur de Tervire, ému lui-même de l'action de son fils. Votre fille a besoin de secours. Je viens de lui en envoyer chercher. Oh, s'il arrive assez tôt pour elle, je ne laisserai point d'imparfait le service que j'ai voulu lui rendre, et je ne lui aurai point sauvé la vie pour l'exposer à ne pas vivre heureuse. Allez, Tervire. Votre fille vient tout à l'heure de devenir la mienne. Qu'on la porte chez moi. Menez-y votre femme. Faites-vous dès aujourd'hui donner au château l'appartement qu'occupait votre mère et que je vous trouve logés toutes deux quand je reviendrai ce soir. Si Madame de Trelles veut bien venir souper avec moi, elle me fera plaisir. Il me tarde déjà d'être de retour pour changer des dispositions qui ne vous étaient pas favorables. Adieu, je reviendrai de bonne heure. Rejoignez votre fille et prenez-en soin. Mon père, qui était toujours resté à ses genoux, et à qui son attendrissement et sa joie ôtaient la force de parler, ne put encore le remercier ici qu'en baignant de ses larmes une main qu'il lui avait tendue, et qu'en élevant les siennes quand il le vit s'éloigner. Il revint à moi, qu'on avait mis entre les mains de la nourrice qu'il avait amenée, nous conduisit toutes deux au château, où la jardinière qui allait partir me prit, nous quitta ensuite pour informer sa femme et sa belle-mère d'un événement si consolant, les amena toutes deux chez son père, au-devant de qui, sur la patience, le fit aller sur la fin du jour, et à la place duquel il ne trouva qu'un valet qu'on lui dépêchait pour le faire venir et pour l'avertir que M. de Tervire était subitement tombé dans une si grande défaillance qu'il ne parlait plus, et où enfin il expira avant que son fils fût arrivé. Quel coup de foudre pour mon père et pour ma mère, et quelle différence de sort pour moi! Il avait fait un testament qu'on trouva parmi ses papiers, et dans lequel il laissait tout le bien à son second fils, et réduisait mon père à une simple légitime. Voilà ce que c'était que ces dispositions qu'il avait eu dessein de changer, et au moyen desquelles mon père se vit à peine de quoi vivre. Il n'y avait rien à espérer de ce cadet qu'on mettait à sa place. C'était un de ces hommes ordinaires qui sont incapables de s'élever à rien de généreux, qui ne sont ni bons ni méchants, de ces petites âmes qui ne vous font jamais d'autre justice que celle que les lois vous accordent, qui se font un devoir de ne vous rien laisser quand elles ont droit de vous dépouiller de tout, et qui, si elles vous voient faire une action généreuse, la regardent comme une étourderie dont elles s'applaudissent de n'être pas capables, et vous diraient volontiers « Oh, j'aime mieux que vous la fassiez que moi !» Voilà à quel homme mon père avait affaire. De sorte qu'il fallut s'en tenir à sa légitime, qui était trop peu de chose, à ce que lui avait apporté ma mère, qui n'était presque rien, et le tout sans ressources du côté de sa belle-mère, qui n'avait qu'un bien médiocre, qui depuis un an s'était épuisé pour marier son fils aîné, et qui était encore chargée de 3 enfants, avec qui elle ne subsistait que par une extrême économie. Ainsi vous voyez bien, Marianne, que jusqu'ici je n'en étais guère plus avancé d'avoir un père et une mère. Le premier ne vécut pas longtemps. Un jeune gentilhomme de son âge qui allait à Paris, d'où il devait joindre son régiment, l'emmena avec lui et en fit un officier de sa compagnie. C'est là où finit son histoire, aussi bien que sa vie, qu'il perdit dès sa première campagne. Il me reste encore une mère, j'ai encore une famille et des parents, et vous allez savoir à quoi ils me serviront. Ma mère est donc veuve. Je ne sais si je vous ai dit qu'elle était belle, et ce qui vaut encore mieux, que c'était une des plus aimables femmes de la province. Si aimable que malgré son peu de fortune et l'enfant dont elle était chargée, je parle de moi, il n'avait tenu qu'à elle de se remarier, et même assez avantageusement. Mais mon père alors lui était encore trop cher, elle en gardait un souvenir trop tendre, elle n'avait pu se résoudre à vivre pour un autre. Cependant, un grand seigneur de la cour, qui avait une terre considérable dans son voisinage, vint y passer quelque temps. Il vit ma mère et il l'aima. C'était un homme de 40 ans, de très bonne mine, et cet amant, bien plus distingué que tous ceux qui s'étaient présentés, et dont l'amour avait quelque chose de bien plus flatteur, commença d'abord par amuser sa vanité, la fit ressouvenir qu'elle était belle et finit insensiblement par lui faire oublier son premier mari et par obtenir son cœur. Il lui offrit sa main et elle l'épousa. Vous n'avez encore qu'un an et demi, tout au plus. Voilà donc la situation de ma mère bien changée. La voilà devenue une des plus grandes dames du royaume, mais aussi la voilà perdue pour moi. 3 semaines après son mariage, je n'eus plus de mère. Les honneurs et le faste qui l'environnaient me dérobèrent sa tendresse, laissèrent plus de place pour moi dans son cœur. Et cette petite fille, auparavant si chérie, qui lui représentait mon père à qui je ressemblais, cet enfant qui lui adoucissait l'idée de sa mort, qui quelquefois, disait-elle, le rendait comme présente à ses yeux, et lui aidait à se faire accroire qu'il vivait encore, car c'était là ce qu'elle avait dit 100 fois. Cet enfant ne fut presque pas moins oublié qu'il l'était lui-même, et devint à peu près comme une orpheline. Une grossesse vint encore me nuire et acheva de distraire ma mère de l'attention qu'elle me devait. Elle m'abandonna aux soins de la concierge du château. Il se passait des 15 jours entiers sans qu'elle me vît, sans qu'elle demandât de mes nouvelles. Et vous pensez bien que mon beau-père ne songeait pas à la tirer de son indifférence à cet égard. Quand je vous parle de mon enfance parce que vous m'avez conté la vôtre. Cette concierge avait 2 petites filles à peu près de mon âge, à qui elle partageait, ou plutôt à qui elle donnait ce qu'elle demandait pour moi au château. Et comme elle se voyait là-dessus à sa discrétion, qu'on ne veillait point sur sa conduite, il lui aurait fallu des sentiments bien nobles et bien au-dessus de son état pour me traiter aussi bien que ses enfants et pour ne pas abuser en leur faveur du peu de soucis qu'on avait de moi. Madame de Trelles, je parle de ma grand-mère, qui ne demeurait qu'à 3 lieues de nous et qui ne se doutait pas que cette chère enfant, que cette petite de Tervire fût si délaissée, qui quelque temps auparavant m'avait vu les délices de sa fille et qui même être véritable grand-mère, vint un jour dîner avec monsieur le marquis de son gendre. Il y avait 2 mois qu'elle n'était venue. Quand elle arriva, j'étais à l'entrée de la cour du château, assise à terre où l'on m'avait mise en fort mauvais ordre. Au linge que je portais, à ma chaussure, au reste de mes vêtements délabrés et peut-être changés, il était difficile de me reconnaître pour la fille de la marquise. Aussi madame de Trelles ne jeta-t-elle qu'un regard indifférent sur moi. Et voyant à quelques pas de là une autre petite fille mieux habillée et plus soignée, qu'on avait assise dans une de ces chaises basses qui servent aux enfants, « Ah, c'est donc là, mademoiselle Tervire, » dit-elle à une servante de la concierge qui était près de nous. « Non, madame, » lui répondit cette fille, « la voilà qui se porte bien, » ajouta-t-elle en me montrant. Et en effet, oh, toute mal arrangée que j'étais, avec un bonnet déchiré et des cheveux épars, j'avais l'air du monde le plus frais, le plus sain. Mais aussi je n'étais paré que de ma santé. Elle faisait toutes mes grâces. Quoi, c'est là ma fille? C'est dans cet état qu'on la laisse? S'écria madame de Trelles avec une tendresse indignée de l'abandon où elle me voyait. Allons, venez, qu'on me suive tout à l'heure. Prenez cet enfant dans vos bras et montez avec moi au château. Il fallut que la servante obéît et me porta jusqu'à l'appartement de ma mère, que ses femmes allaient coiffer quand nous entrâmes. Ma fille, lui dit en entrant madame de Trelles, On veut me persuader que cet enfant-ci est mademoiselle de Trervire, et cela ne saurait être. On ne ramasserait pas les hardes qu'elle a. Ce n'est sans doute que quelque misérable orpheline que la femme de votre concierge a retirée par charité, n'est-ce pas? Ma mère rougit. Cette façon de lui reprocher sa conduite à mon égard avait quelque chose de si vif. C'était lui reprocher avec tant de force qu'elle me traitait en marâtre et qu'elle manquait d'entrailles et que l'apostrophe la déconcerta d'abord et puis la fâcha. « Mais il y a 3 jours, dit-elle, que je suis indisposée et que je ne vois rien de ce qui se passe. Retirez-vous, et que cette impertinente de concierge vienne me parler tantôt, » ajouta-t-elle à cette servante d'un ton qui marquait plus de colère contre moi que contre celle qu'elle appelait impertinente. Madame de Trelles, à qui mon attirail tenait au cœur, ne fut pas plutôt tête à tête avec elle qu'elle lui témoigna sans ménagement toute la pitié que je lui faisais. Elle ne lui parla plus qu'avec larmes de l'état où elle me trouvait et qu'avec effroi de celui où elle prévoyait que je tombais infailliblement dans les suites. Ma grand-mère était naturellement vive. Il n'y avait point de femme qui fût plus au fait de la matière dont il était question, ni qui pût la traiter de meilleure foi, ni avec plus d'abondance de sentiments qu'elle. C'était une de ces mères de famille qui n'ont de plaisir et d'occupation que leurs devoirs, qui les respectent, qui mettent leur propre dignité à les remplir, qui en aiment la fatigue et l'austérité et qui, dans leur maison, ne se délassent d'un soin que par un autre. Jugez si, avec ce caractère-là, elle devait être contente de ma mère. Je ne sais comment elle s'expliqua, mais rarement on sert bien ce qu'on aime trop. Elle s'emporta peut-être, et les reproches durs ne réussissent point. Ce sont des affronts qui ne corrigent personne, et nos torts disparaissent dès qu'on nous offense. Aussi ma mère trouva-t-elle Madame de Trelles fort injuste. Il est vrai que je n'aurais pas dû être si mal habillé, mais c'est que la concierge, qui était ma gouvernante, avait différé ce matin-là de m'ajuster comme à l'ordinaire. Il n'y avait pas là de quoi faire tant de bruit. Quoi qu'il en soit, Madame de Trelles, qui depuis raconta ce fait-là à plusieurs personnes de qui je le tiens, s'aperçut bien qu'elle m'avait nui et que ma mère nous en voulait, à elle et à moi, de ce qui s'était passé. 3 semaines après, le marquis, qui avait dessein d'emmener sa femme à Paris avant que sa grossesse fût plus avancée, reçut des nouvelles qui hâtèrent son voyage. Et comme, dans un départ si brusque, ma mère n'avait pas eu le temps de s'arranger, qu'elle n'emmenait qu'une de ses femmes avec elle, il avait été conclu que 3 jours après, je viendrais plus à l'aise et dans un bon équipage avec ses autres femmes, et il n'y avait rien à dire à cela. Madame de Trelles, à qui on avait promis de me porter chez elle la veille de notre départ, et qui vit qu'on n'en avait rien fait, allait envoyer au château pour savoir ce qui avait empêché qu'on ne lui eût tenu parole, quand on lui annonça la concierge, qui lui dit que j'étais resté, que les femmes de ma mère m'avaient trouvé si malade qu'elles n'avaient pas osé me mettre en voyage et m'avaient laissé chez elle. Quand cela, elles avaient obéi aux ordres de Madame la Marquise, qui avait expressément défendu qu'on risquât de me faire partir au cas de quelque indisposition, et que j'étais actuellement au lit avec un grand rhume et une toux très violente. « Et c'est à vous à qui on l'a confié ?» répondit Madame de Trelles, qui lui tourna le dos et qui, dès le soir même, me fit transporter chez elle, où j'arrivais parfaitement guéri de ce rhume et de cette toux qu'on avait alléguée, et que ma mère avait, dit-on, imaginé, pour n'avoir pas l'embarras de me mener avec elle, bien persuadée d'ailleurs que Madame de Trelles ne souffrirait pas que je fisse un long séjour chez la concierge et ne manquerait pas de m'en retirer. Aussi cette dame lui en écrivit elle-même dans ce sens-là, de la manière du monde la plus vive. « Vous avez tant aimé, monsieur de Trervire, vous l'avez tant pleuré, lui disait-elle, Et vous l'outragez aujourd'hui dans le seul gage qui vous reste de son amour. Mais ne vous en laissez qu'une fille, et vous refusez d'être sa mère. C'est à présent que ma tendresse, que vous vous délivrez d'elle. Quand je n'y serai plus, vous voudrez bien vous en délivrer par la pitié des autres. » Ma mère, qui était parvenue à ses fins, souffrit patiemment l'injure qu'on faisait à son cœur, se contenta de nier qu'elle eût de moi le moindre dessein de me tenir loin d'elle, envoya du linge pour moi avec des étoffes pour m'habiller, et assura Madame de Trelles qu'elle me ferait venir à Paris dès qu'elle serait accouchée. Mais elle ne s'y engageait apparemment que pour gagner du temps. Du moins, après ses couches, ne fut-il plus mention de sa promesse qu'elle éluda dans ses lettres pour se plaindre d'une santé toujours infime qui lui aurait été restée, qui la retenait le plus souvent au lit et qui la rendait incapable de la plus légère attention à tous égards. « Je n'ai pas la force de penser, disait-elle, et vous jugez bien que dans cet état-là, avec une tête aussi faible qu'elle disait avoir, il n'y avait pas moyen de lui proposer la fatigue de me voir auprès d'elle. » Même malheureusement, le cœur de Madame de Trelles s'échauffait pour moi à mesure que celui de ma mère m'abandonnait. Et elle acheva si bien de m'oublier qu'elle n'écrivit plus que rarement, qu'elle cessa même de parler de moi dans ses lettres, qu'à la fin elle ne donna plus de ses nouvelles, qu'elle ne m'envoya plus rien et qu'au bout de 2 ans et demi, il ne fut plus question de moi dans sa mémoire que si j'avais été jamais au monde. De sorte que je n'y étais plus que pour Madame de Trelles, son cœur était la seule fortune qui me restait. Indifférente aux parents que j'avais dans le pays, inconnue à ceux que j'avais dans d'autres provinces, incommode à mes 2 tantes, avec qui je demeurais, enfin j'entends les 2 filles de Madame de Trelles, et même haïe d'elles, en conséquence des attentions que leur mère avait pour moi, vous sentez qu'en de pareilles circonstances, et dans ce petit coin de campagne où j'étais comme enferré, ma vie ne devait intéresser personne. Ce fut ainsi que je passai mon enfance, dont je ne vous dirai plus rien, et que j'arrivai jusqu'à l'âge de 12 ans et quelques mois. Dans l'intervalle, ces tantes dont je viens de parler, quoique assez laides et toutes deux les sujets du monde les plus minces du côté de l'esprit et du caractère, trouvèrent cependant 2 gentilshommes des environs, qui étaient en hommes ce qu'elles étaient en femmes, qui avaient de quoi vivre, tantôt bien, tantôt mal, et qui les épousèrent avec ce qu'on appelait leur légitime, qui consistait en quelques parts de vignes, de prés et d'autres terres. De sorte que je restais seul dans la maison, avec Madame de Trelles, dont le fils aîné demeurait à plus de 15 lieues de nous depuis qu'il était marié, et dont le cadre attaché au jeune duc de son colonel ne le quittait point, ne revenait presque jamais au pays. Et pendant tout ce temps-là, que disait ma mère ? Ni rien, nous n'entendions plus parler d'elle, ni elle de nous. Ce n'est pas que je me demandasse quelquefois ce qu'elle faisait, et si elle ne viendrait pas nous voir, mais comme ces questions-là m'échappaient en passant, que je les faisais étourdiment et à la légère, Madame de Trelles n'y répondait qu'un mot dont je me contentais et qui ne me mettait point au but de ses dispositions pour moi. Enfin arriva le temps qui me dévoila ce que l'on me cachait. Madame de Trelles, qui était fort âgée, tomba malade, se rétablit un peu. Elle n'était plus que languissante, mais 6 semaines après, elle eut une rechute qui l'emporta. L'état où je la vis dans ce dernier accident me rendit sérieuse. J'en perdis mon étourderie, ma dissipation ordinaire et cet esprit de petite fille que j'avais encore. En un mot, je m'inquiétais, je pensais, et ma première pensée fut de la tristesse ou du chagrin. Je pleurais quelquefois par des motifs confus d'inquiétude. Je voyais Madame de Trelles mal servie par les domestiques qui la regardaient comme une femme morte. J'avais beau les presser d'agir, d'être attentif, ils ne m'écoutaient point. Ils ne se souciaient plus de moi, et je n'osais moi-même me révolter, ni faire valoir ma petite autorité comme auparavant. Ma confiance baissait, je ne sais pour pourquoi. Mes deux tantes venaient de temps en temps à la maison, et elles y dînaient sans me faire aucune amitié, sans prendre garde à mes pleurs, sans me consoler. Et si elles me parlaient, c'était d'un ton distrait et sec. Madame de Trelles même s'en apercevait. Elle en était touchée et les en reprenait avec une douceur que je remarquais aussi, qui me contristait et qu'elle n'aurait pas eue autrefois. Il semblait qu'elle voulût les gagner, qu'elle leur demandait grâce pour moi, et tout cela me frappait comme une chose de mauvais augure, comme une nouveauté qui me menaçait de quelque disgrâce à venir, de quelque situation fâcheuse. Et si je ne raisonnais pas là-dessus aussi distinctement que je vous le dis, du moins en prenais-je une certaine épouvante qui me rendait muette, humble et timide. Vous savez bien qu'on a du sentiment avant que d'avoir de l'esprit, sans compter que Madame de Trelles, quand ses filles étaient parties, m'éclairait encore par ses manières. Elle m'appelait, me faisait avancer, me prenait les mains, me parlait avec une tendresse plus marquée que de coutume. On lui dit qu'elle voulait me rassurer, m'ôter mes alarmes, et me tirer de cette humiliation d'esprit dans laquelle elle sentait bien que j'étais tombé. Quelques jours auparavant, il était venu une dame de ses voisines, son intime amie à qui elle voulait parler en particulier. Il y avait dans sa chambre un petit cabinet où je passais, je ne sais par quelle curiosité tendre et inquiète, je m'avisais d'écouter leur conversation. « Cet enfant m'afflige, lui disait Madame de Trelles. Oh, ce ne serait que pour elle que je souhaiterais de vivre encore quelque temps, mais Dieu est le maître, il est le père des orphelins. Avez-vous eu la bonté, ajouta-t-elle, de parler à Monsieur Villot ? » C'était un riche habitant du bourg voisin qui avait été plus de 30 ans fermier de feu Monsieur de Tervire, mon grand-père, que son maître avait toujours estimé et qui avait gagné la meilleure partie de son bien à son service. « Oui, lui dit son ami, j'ai été chez lui ce matin. Il s'en allait à la ville où les affaires pour un jour ou deux, il se conformera à ce que vous lui demandez et viendra vous en assurer à son retour. Tranquillisez-vous. Mademoiselle de Tervire n'est point orpheline, comme vous le pensez. Espérez mieux de sa mère. Il est vrai qu'elle l'a négligée, mais elle ne la connaît point. Elle l'aimera dès qu'elle l'aura vue. » Quelque bas qu'elle parlasse, je les entendis, et le terme d'orpheline m'avait d'abord extrêmement surprise. Que pouvait-il signifier, puisque j'avais une mère, et que même on parlait d'elle? Mais ce qu'avait répondu l'ami de Madame de Trelles me mit au fait et m'apprit qu'apparemment cette mère que je ne connaissais pas ne se souciait point de sa fille, et ce furent là les premières nouvelles que j'eus de son indifférence pour moi. J'en pleurais amèrement, j'en demeurais consterné, toute petite fille que j'étais encore. 6 jours après ce que je vous dis là, Madame de Trelles baissa tant qu'on fit partir un domestique pour avertir ses filles, qui la trouvèrent morte quand elles arrivèrent. Le fils aîné, celui que j'ai dit qui demeurait à 15 lieues de là, dans la terre de sa ferme, était alors avec elle à Paris, où une affaire l'avait obligé d'aller, et le cadet était dans je ne sais quelle province avec son régiment. Ainsi, dans cette occurrence, il n'y eut que leur sœur de présente, je dépendis d'elle. Elles restèrent 4 ou 5 jours à la maison, tant pour rendre le dernier devoir à leur mère que pour mettre tout en ordre dans l'absence de leur frère. Je crois qu'il y eut un inventaire, du moins des gens de justice y furent-ils appelés. Madame de Trelles avait fait un testament. Il y avait quelques petits laits à acquitter, et mes tantes prétendaient d'ailleurs avoir des reprises sur le bien. Figurez-vous des discussions, des débats entre les sœurs, qui tantôt se querellent et tantôt se réunissent contre un homme à qui leur frère aîné, informé de la maladie de sa mère, avait envoyé sa procuration de Paris. Imaginez-vous enfin tout ce que l'avarice et l'amour du butin peuvent exciter de criailleries et d'agitations indécentes entre des enfants qui n'ont point de sentiments et à qui la mort de leur mère ne laisse au lieu d'affection que de l'avidité pour sa dépouille. Voilà l'image de ce qui arriva alors. Et où étais-je pendant tout ce fracas? Dans une petite chambre où l'on m'avait relégué à cause de mes pleurs et de mes gémissements qui étourdissaient les deux filles et que je n'osais en effet continuer longtemps. L'excès de ma douleur la rendit bientôt solitaire et muette, surtout depuis qu'elle sut que Madame de Trelles m'avait laissé un diamant d'environ 2 000 francs qu'une de ses amies lui avait autrefois donné en mourant, et qu'elles furent obligées de délivrer au confesseur de leur mère qui devait me le remettre. Ce diamant les avait outrées contre moi. Elles ne pouvaient pas me voir. Comment est-il possible, disaient-elles, que notre mère nous ait moins aimés que cette petite fille? N'est-il pas bien étonnant que ceux qui l'ont dirigée n'aient pas redressé ses sentiments, ni travaillé à lui en inspirer de plus naturel et de plus légitime? Jugez si cette petite fille aurait bien fait de se montrer. Aussi ne les ai-je jamais oubliés, ces 4 jours que je passais avec elle, et que j'y passais dans les larmes. Oui, Marianne, croiriez-vous que je n'y songe encore qu'en frémissant, à cette maison si désolée, où je n'étais plus rien pour qui que ce soit, où je me trouvais seul au milieu de tant de personnes, où je ne voyais plus que des visages, la plupart ennemis, quelques-uns indifférents, et tous alors plus étrangers pour moi que si je les eusse jamais vus. Car voilà l'impression qu'ils me faisaient. Considérez-moi dans cette chambre où l'on m'avait mis à l'écart, où je me sauvais de la rudesse et de l'aversion de mes tantes, où me retenait l'effroi de paraître à leurs yeux, et où je tremblais seulement en entendant leur voix. Je croyais dépendre du caprice ou de l'humeur de tout le monde. Il n'y avait personne dans la maison, pas un domestique à qui je ne m'imaginasse avoir obligation de ce qu'il me méprisait ou ne me vous reputait pas. Et vous devez, ma chère Marianne, juger mieux qu'une autre combien je souffris, moi que rien n'avait préparé à cette étrange sorte de misère, moi qui n'avais pas la moindre idée de ce qu'on appelle peine d'esprit, et qui sortait entre les mains d'une grand-mère qui m'avait amolli le cœur par cette tendresse. Ce ne sont pas là de ces chagrins violents où l'on s'agite, où l'on s'emporte, où l'on a la force de se désespérer. C'est encore pire que cela. Ce sont de ces tristesses retirées dans le fond de l'âme qui la fleurissent et qui la laissent comme morte. On n'est qu'épouvanté de n'appartenir à personne, mais on se sent comme anéanti en présence de tels parents. Enfin, ma situation changea. Il n'y avait plus rien à discuter, et le 4e jour de la mort de Madame de Trelles, mes tantes songèrent à se retourner chez elles avec leur mari, qui les était venu prendre. Un vieux et ancien domestique, qui s'était marié chez Madame de Trelles, et qui logeait dans la basse-cour avec toute sa famille, de vigneron qu'il était, fut établi concierge de la maison en attendant qu'on eût levé les scellés. Cet homme se ressouvint que j'étais enfermé dans cette petite chambre. Vous ne pouvez pas demeurer ici, puisqu'il n'y demeura plus personne, me dit-il. Alors, venez dans la salle où l'on déjeune. Il fallut bien l'y suivre malgré moi, et sans savoir ce que j'allais devenir. Je n'y entrai qu'en tremblant, la tête baissée, avec un visage pâle et déjà maigri, avec du linge et des habits froissés pour avoir passé 2 nuits sur mon lit sans m'être déshabillé, et cela par pur découragement, et parce qu'aussi que ce soir me s'avisait le soir de venir voir ce que je faisais. Je n'osais lever les yeux sur ces deux redoutables sœurs. J'étais à leur merci. Je n'avais la protection de personne, et depuis que j'avais perdu Madame de Trelles, je ne m'étais pas encore senti si privé d'elle que dans cet instant où je parus devant ses filles. Ah, et à propos, nous n'avons point encore songé à cette petite fille, dit alors la cadette du plus loin qu'elle m'aperçut. Et qu'en ferons-nous donc, ma sœur? Car pour moi, je vous dirai naturellement que je ne me saurais me charger d'elle. Ma belle-sœur et ses deux enfants sont actuellement chez moi. J'ai assez de mes autres embarras que sans l'oblige là. Oh, moi, c'est les miens, repartit l'aîné. On rebâtit ma maison, il y a une partie d'abattue, et où la mettrai-je? Eh bien, répondit l'autre, où est la difficulté? Il n'y a qu'à la laisser chez ce bonhomme, c'était le vigneron qu'elle voulait dire, dont la femme en aura soin et qui la gardera en attendant qu'on ait réponse de sa mère, à qui nous écrirons, et qui enverra apparemment de l'argent, quoi qu'il n'en soit jamais venu de chez elle, et qui disposera de sa fille comme il lui plaira. Bon, je ne vois point d'autre arrangement, dès que nous ne pouvons pas l'emmener, et qu'il n'y a point d'autres parents ici. Je ne suis pas d'avis qu'il m'en arrive autant qu'à ma mère, à qui la marquise, toute grande dame et toute riche qu'elle est, n'a pas eu honte de la laisser pendant 10 ans entiers, qui, par surcroît de ridicule, ont fini par un lait de 1000 écus. Elle parlait du diamant. Jugez-en, Marianne, voyez, si l'on pouvait, moi présente, me rejeter avec plus d'insultes, ni traiter de ma situation avec moins d'humanité, ni me la montrer avec moins d'égard pour la faiblesse de mon âge. Aussi en eus-je l'esprit troublé, cet asile qu'on me refusait, celui qu'on me reprochait d'avoir trouvé chez Madame de Trelles, ce misérable gîte qu'on me destinait dans le lieu même où j'avais été si heureuse, où Madame de Trelles m'avait tant aimée, où je me dirais sans cesse, mais où est-elle? Où ne croirais toujours à la voir, et toujours avec la douleur de ne la voir jamais? Enfin, ce récit qu'on me faisait en passant, du peu d'intérêt que ma mère prenait à moi, tout cela me pénétra si fort qu'en m'écriant, ah, Dieu! Mon visage à l'instant fut couvert de larmes. Pendant qu'on délibérait ainsi sur ce qu'on ferait de moi, M. Villot, cet ancien fermier de mon grand-père, et à qui Madame de Trelles avait écrit, entra dans la salle. Je le connaissais, je l'avais vu venir souvent à la maison pour des achats de blé, et l'air plein de zèle et de bonne volonté avec lequel il jeta d'abord les yeux sur moi, m'engagea subitement et sans réflexion à avoir recours à lui. « Hélas, lui dis-je, monsieur Villot, vous qui étiez notre ami, menez-moi chez vous pour quelques jours. Souvenez-vous de Madame de Trelles et ne me laissez pas ici, je vous en conjure. Et vraiment, mademoiselle, je n'arrive ici que pour vous emmener. C'est Madame de Trelles qui m'en a chargé en mourant par la lettre que voici et que je n'ai reçue que ce matin en revenant de la ville. Ainsi, je vous conduirai tout à l'heure à notre bourg, si ces dames y consentent, et ce sera bien de l'honneur à moi de vous rendre ce petit service après les obligations que j'ai à feu M. de Thervire, mon bon maître et votre grand-père, que nous avons bien pleuré, ma femme et moi, et pour qui nous prions Dieu encore tous les jours. Il n'y a qu'à venir, mademoiselle. Nous vous estimerons bien heureux de vous avoir à la maison, et nous vous y porterons autant de respect que si vous étiez chez nous, ainsi qu'il est juste. « Volontiers, dit alors une de mes tantes, n'est-ce pas ma sœur? Elle sera là chez de fort honnêtes gens, et nous pouvons la leur confier en toute sûreté. Oui, monsieur Villot, on vous la laisse, avec plaisir, emmenez-la. J'écrirai dès aujourd'hui à sa mère la bonne volonté que vous avez marquée, afin que vous n'y perdiez pas et qu'elle se hâte de vous débarrasser de sa fille. » « Ah, madame, lui répondit ce galant homme, ce n'est pas le gars que j'y prétends faire qui me mène, je n'y songe pas. Pour ce qui est de l'embarras, il n'y en aura point. Ma femme ne quitte jamais son ménage. Nous avons une chambre fort propre, qui est toujours vide, excepté quand mon gendre vient au bourg. Mais il couchera ailleurs. Il n'est que mon gendre, et la jeune demoiselle sera la maîtresse du logis jusqu'à ce que sa mère la reprenne. Je m'approchai alors de M. Villot pour lui témoigner combien j'étais sensible à ce qu'il disait, et de son côté, il me fit une révérence à laquelle on reconnaissait le fermier de mon grand-père. « Alors voilà qui est décidé, » dit alors la cadette. « Adieu, M. Villot, qu'on aille chercher la cassette de cette petite fille. Il se fait tard, nos équipages sont prêts. Il n'y a qu'à partir. » Tervire, c'était à moi à qui elle s'adressait. Donnez demain de vos nouvelles à votre mère, on vous renverra un de ces jours, entendez-vous? Soyez bien raisonnable, ma fille. Nous vous la recommandons, monsieur Villot. Là-dessus, elles prirent congé de tout le monde, passèrent dans la cour, se mirent chacune dans leur voiture et partirent sans m'embrasser. Elle venait de s'épuiser d'amitié pour moi dans les dernières paroles que venait de me dire la cadette et que l'aînée était censée avoir dites aussi. Je fus un peu soulagé dès que je ne les vis plus. Je respirais, je sentis une affliction de moins. On chargea un paysan de mon petit bagage et nous partîmes à notre tour, M. Villot et moi. « Non, Marianne, quelque chose que je vous ai dit jusqu'ici de mes détresses, je ne me souviens point d'avoir rien éprouvé de plus triste que ce qui se passa dans mon cœur en cet instant. Nous qui sommes bornés en tout, comment le sommes-nous si peu quand il s'agit de souffrir? Cette maison où je croyais ne pouvoir demeurer sans mourir, je ne pus la quitter sans me sentir arracher l'âme. Il me sembla que j'y laissais ma vie. J'expirais à chaque pas que je faisais pour m'éloigner d'elle. Je ne respirais qu'en soupirant. J'étais cependant bien jeune, mais 4 jours d'une situation comme était la mienne avancent bien le sentiment. Ils valent des années. « Mademoiselle, me disait le fermier, qui avait presque envie de pleurer lui-même, marchons, ne retournez point la tête. Et gagnons vite le logis. Votre grand-mère nous aimait, c'est comme si c'était elle. » Et pendant qu'il me parlait, nous avancions. Je me retournais encore, et à force d'avancer, elle disparut à mes yeux, cette maison que je n'aurais voulu ni habiter, ni perdre de vue. Enfin, nous entrâmes dans le bourg, et me voici chez M. Villot avec sa femme, que je ne connaissais point et qui me reçut avec l'air et les façons dont j'avais besoin dans l'état où j'étais. Je ne me trouvais point étrangère avec elle. On est tout d'un coup lié avec les gens qui ont le cœur bon, quels qu'ils soient, ce sont comme des amis que vous avez dans tous les états. Ce fut ainsi que je fus accueilli, et le premier avantage que j'en retirai fut d'être délivré de cette crainte stupide, cet abattement d'esprit où j'avais langui jusque-là. J'osais du moins alors pleurer et soupirer à mon aise. Mes tantes avaient réduit ma douleur à se taire. Le zèle et les caresses de ces gens-ci la mirent en liberté. Cela la rendit plus tendre, par conséquent plus douce, et puis la dissipa insensiblement à l'attendrissement près qui me resta en songeant à Madame de Trelles et que j'ai encore quand je parle d'elle. J'avais écrit à ma mère et il y avait toute apparence que M. Villot ne me garderait que 10 ou 12 jours. Et point du tout. Ma mère m'écrivit en 4 lignes de rester chez lui sous prétexte d'avoir un voyage à faire avec son mari et de m'emmener ensuite à Paris avec elle. Mais ce voyage qu'elle remettait de mois en mois ne se fit point, et le tout se termina par me marquer bien franchement qu'elle ne savait plus quand elle viendrait, mais qu'elle allait prendre des arrangements pour me faire venir à Paris. ce qui n'eut aucun effet non plus, malgré la quantité de lettres dont je la fatiguais depuis, et auxquelles elle ne répondit point, de façon que je me laissais moi-même lasser de lui écrire, et que je restais chez ce fermier, aussi abandonné que si je n'avais point eu de famille, à quelque argent près qu'on m'envoyait rarement pour m'habiller, avec une petite pension qu'on payait pour moi, et dont la médiocrité m'empêchait par mes généreux hôtes de m'aimer de tout leur cœur et de me respecter en m'aimant. De mes tantes, je ne vous en parle point, je ne les voyais tout au plus que deux fois par an.